Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Rares sont ceux qui, en Europe, regretteront Donald Trump. Après 4 années de relations chaotiques, Joe Biden est attendu avec impatience par les Européens. Si certains pays comme l'Allemagne rêvent d'un retour aux relations d'avant, ils risquent d'être déçus. Les États-Unis regardent plus que jamais vers l'Asie et de moins en moins vers l'Europe. D'ailleurs, les citoyens européens l'ont compris, ils sont de plus en plus nombreux. 67% d'après un récent sondage a estimé qu'ils ne peuvent plus compter sur Washington en cas de crise majeure. Une occasion pour l'Europe de s'affirmer en tant que puissance et non plus à travers son seul marché unique. En a-t-elle l'ambition et les moyens? Je vous présente les invités qui vont tenter de répondre à ces questions et à quelques autres et qui nous ont rejoints tantôt dans le studio 51 de RFI et tantôt par téléphone. Pandémie oblige. Bonjour Tara Barma.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du bureau de Paris de l'ECFR. Alors, l'ECFR, c'est European Council on Foreign Relations. Qu'est-ce que c'est plus précisément que l'ECFR? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres?
Alors, rien de bien méchant, un think tank pan-européen qui travaille sur la politique étrangère de l'Europe. Et on se rend compte aujourd'hui que la politique étrangère européenne touche aussi à beaucoup de questions de politique intérieure.
Alors, je faisais référence dans mon introduction à ce fameux sondage. C'est le CFR qui a évidemment réalisé ce sondage au niveau européen. Et bien évidemment, nous y ferons référence et vous nous en direz forcément quelques mots. Claudia Mayer, bonjour, guten Tag.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de recherche OSWP, Stiftung Wissenschaft und Politik. J'ai essayé de le dire bien mal en allemand. En français, on le dirait correctement comment?
Ouais, je crois qu'on dirait Institut allemand pour les relations internationales et la politique de sécurité. Une traduction un peu longue. Mais on est un institut de recherche indépendant. Il y a un think tank qui conseille surtout le gouvernement allemand, mais aussi des institutions comme l'OTAN ou l'Union européenne.
En tout cas, merci d'être en ligne de Berlin où, par définition, vous êtes confiné. Nicole Niesotto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au CNAM. Alors, le CNAM, c'est le Conservatoire National des Arts et Métiers. Et vous êtes titulaire de la chaire Europe du CNAM. Évidemment, une grande spécialiste des questions de sécurité et de politique internationale. Et à Washington, nous rejoignons Benjamin Dade. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur Europe de l'Atlantic Council. Alors, même question que pour Tara Barma, c'est quoi l'Atlantic Council?
L'Atlantic Council, c'est un des principaux think tanks de politique étrangère de Washington. On est un think tank complètement bipartisan, mais avec une mission qui est promouvoir l'internationalisme américain et la relation avec les alliés, au premier rang desquels la relation transatlantique.
Eh bien, très bien, on verra. Même si la relation transatlantique, on aura l'occasion de le voir, elle semble moins importante que la relation transasiatique. On verra ça un petit peu au cours de l'émission. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International, cette semaine avec Beniamino Morant. Alors, Tara Barma, à part Viktor Orban en Hongrie, Jaroslav Kaczynski en Pologne et Marine Le Pen en France, qui ont regretté le départ de Donald Trump, rares sont ceux qui l'ont regretté. Alors, on peut peut-être encore ajouter le Premier ministre slovène, qui peut-être un peu malencontreusement a félicité Donald Trump pour sa victoire. Il y a des fois, il faut tourner plusieurs fois sa langue dans sa bouche et faut tweeter avec un peu de mesure. Hein. Voilà, il en a manqué. En tout cas, mis à part ces 3-4 là que j'ai cités, peu d'Européens regrettent le départ de Donald Trump. Hein.
Alors, absolument, et je pense surtout qu'ils ont hâte de voir ce que va donner la nouvelle administration. Alors, vous parliez du Slovène, il a quand même attendu jusqu'à hier pour féliciter formellement Joe Biden, donc il attendait de voir ce qui allait se passer probablement. Heureusement, après les événements terribles du 6 janvier, on avait peur de heurts à Washington, et j'imagine que Benjamin reviendra dessus. Les choses se sont relativement bien passées et on a vraiment eu le sentiment d'un retour de l'Amérique, ou en tout cas d'une avancée vers des jours meilleurs, on espère, avec de la culture, une poétesse de 22 ans qui est intervenue, et je pense que ça a envoyé un message vraiment d'ouverture des États-Unis. Les Européens attendent de voir maintenant ce qui va se passer très concrètement. Vous les avez évoqués sur les questions commerciales, la relation avec la Chine, la relation avec la Russie. Les sujets de contentieux potentiels ne manquent pas.
Oui, on va évidemment en passer quelques-uns en revue. Benjamin Haddad, pour Donald Trump, l'Europe, c'est-à-dire l'Union Européenne principalement, était à mettre dans la catégorie des ennemis, au minimum dans celle des adversaires. L'Europe redevient-elle une alliée avec Joe Biden? Peut-être seulement un partenaire, quel serait le bon mot? Allié, partenaire?
Joe Biden l'a dit dans sa campagne, il veut remettre les alliances au centre de la politique étrangère américaine. Donc on va avoir un ton évidemment très différent vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN. Il est probable d'ailleurs que le premier déplacement étranger de Joe Biden ait lieu pour un sommet de l'OTAN. Il aura aussi à cœur de réparer les relations avec l'Allemagne. Il sait que dans les grands défis globaux qui s'adressent à l'Amérique, et notamment la rivalité stratégique avec la Chine, on va en parler évidemment, ce sera la priorité de cette administration comme la priorité de l'administration précédente. Le fait d'avoir des alliés pour construire ensemble des normes et agir ensemble au niveau des organisations internationales est un atout essentiel pour les États-Unis.
Nicole Nisodo, avec Donald Trump, les relations étaient à la fois chaotiques et fort désagréables. Ce qu'on peut imaginer, en tout cas dans un premier temps, en ce qui concerne la forme, c'est qu'avec Joe Biden, les relations seront beaucoup plus courtoises et on peut dire apaisées, en tout cas dans la forme.
Ah oui, je crois dans la forme et même dans le fond, même dans la substance. On revient à, disons, une certaine politesse, des procédures diplomatiques traditionnelles. Donc tous les Européens applaudissent des quatre bras. Mais ce que je voulais dire, c'est que les bonnes nouvelles dans la période que l'on vit sont toujours réversibles. Je crois qu'on est très content de voir une équipe américaine qui va rompre avec l'équipe de Donald Trump, avec une équipe compétente d'ailleurs, puisqu'on voit revenir les anciens que les Européens connaissent par cœur, comme Anthony Blinken par exemple. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle, le retour, comme l'a dit Benjamin Haddad, à l'alliance, au multilatéralisme, aux valeurs, etc. Mais justement, cette nouvelle équipe, elle est ancienne. Elle a en tête peut-être l'Europe d'avant, les relations transatlantiques d'avant. Et moi, ce que je crains, c'est que cette équipe, et en dépit de toute l'affection qu'on a tous pour Anthony Blinken, reste sur des notions de leadership américain au sein de l'Alliance, de scepticisme vis-à-vis de la souveraineté ou de l'autonomie stratégique européenne. Et donc, je crois qu'il faut faire très attention. On a deux très bonnes nouvelles cette année pour commencer l'année qui sont l'élection de Joe Biden et le vaccin anti-Covid. Mais dans les deux cas, on n'est pas sûr que les politiques qui en sortent aboutissent finalement à résoudre tous les problèmes. Et je crois que les Européens sont à la fois très contents et un peu quand même sur la réserve en attendant de voir ce que ça va donner. En particulier, pardonnez-moi, mais le fait de dire qu'il va faire une grande réunion des démocraties le plus vite possible avec le retour au leadership américain. Je trouve que c'est très difficile d'avoir un leadership sur la démocratie quand votre propre alliance a au moins deux, sinon plus, pays qui trahissent la démocratie et qui sont la Turquie et la Pologne. Et ça va être difficile pour Joe Biden de s'affirmer comme le leader des démocrates quand son alliance trahit la démocratie.
Claudia Maillard, on va rester pour l'instant sur les bonnes nouvelles. Et parmi les bonnes nouvelles, outre le retour du multilatéralisme que les Américains vont redécouvrir, semble-t-il, avec Joe Biden, c'est le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat.
Certainement, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi une très bonne nouvelle que ça a été signé le premier jour. Mais je crois, en fait, il ne faut pas se leurrer. Il y a des très bonnes nouvelles. Il y a un changement de climat, l'atmosphère a changé. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne changera pas dans la relation transatlantique. Et c'est premièrement le rôle de la Chine. Donc les États-Unis considèrent que la Chine, c'est une des priorités de leur politique étrangère, et pas l'Europe, donc c'est plutôt la Chine. Il y a aussi les attentes envers l'Europe dans plusieurs domaines de faire plus, que ce soit défense, technologie ou autres régulations ne vont pas changer. Donc je crois que ça va être très difficile pour l'Europe maintenant d'avoir le président dont on a tellement rêvé, qu'on a tant attendu, mais maintenant quand même répondre aux exigences qui viennent du côté américain. Et je crois là, les mois qui vont venir, les premiers mois de 2021, vont être très durs parce que les exigences américaines envers la Chine, envers les régulations technologiques, envers en général les questions de démocratie ou d'autres défis internationaux vont être là. Et maintenant, c'est aux Européens de trouver des réponses communes et surtout des réponses qui vont un peu satisfaire les États-Unis. Donc je crois qu'il faut faire très attention de ne pas tomber maintenant dans un piège de tout va bien, de lune de miel, mais d'être très clair ce que nous, les Européens, veulent et où on trouve un terrain d'entente et de coopération avec les États-Unis.
Alors, on va évidemment revenir sur toutes ces questions. Que peuvent faire les Européens et quelle est l'ambition des Européens face à Joe Biden? Alors, en vous écoutant, Claudia Mayer, on a compris que plus on attend, plus on rêve de Joe Biden et plus on risque d'être déçu. Et pour en avoir une petite confirmation, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour, Beniamino Morante.
Bonjour, Daniel.
Le Corriere della Sera, le grand journal italien, s'interroge lui aussi sur la relation à venir entre Joe Biden et l'Union européenne. Et le quotidien milanais, il est un peu comme vous, Claudia Mayer, il n'est pas vraiment optimiste.
Oui, Daniel, tout à fait. Alors, le titre de l'article est déjà très explicite, hein, puisque le média italien prévient d'entrée, en fait, avec Biden, le vent va changer, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Alors, évidemment, on sort de 4 années terribles de Trump et l'UE a hâte d'entamer le changement. L'Europe comptait les jours qui manquaient à l'investiture, rappelle d'ailleurs le quotidien milanais en entrée de l'article. En fait, c'est un décompte qui est tout à fait logique, si on se souvient des faits d'armes du président républicain. Alors, par exemple, il a tour à tour envisagé l'éclatement de l'UE, menacé la dissolution de l'OTAN ou encore lancé une guerre à base de droits de douane avec Bruxelles. Donc, c'est certain, Biden, ça ne pourra pas être pire que Trump. Mais attention, car mieux ne veut pas forcément dire bien. L'Europe ne doit pas se faire d'illusions, affirme le quotidien milanais. L'arrivée de Biden ne marquera pas le retour de la solidarité transatlantique. Alors en effet, selon le Corriere della Sera, les premiers signaux qui ont été déjà envoyés par Washington ne sont guère rassurants. Alors d'abord, en ce qui concerne les rapports avec la Chine, des porte-paroles de Biden ont déjà fait savoir que les États-Unis s'attendent à ce que l'Europe s'aligne avec Washington dans la confrontation globale avec Pékin. Alors là, pour le Corriere, c'est déjà une grande claque aux ambitions d'autonomie géopolitique de l'UE. Et qu'en est-il du rôle protecteur de l'oncle Sam, invoqué par l'Europe? Alors là encore, c'est aux oubliettes. Parce que Biden, comme l'avait décidé Trump, exigera qu'on mette la main au portefeuille pour faire augmenter les dépenses militaires de l'OTAN. Quant au conflit en Ukraine, où l'Europe tente péniblement d'apporter la paix, alors là encore, Biden, c'est exclu, ne changera pas de ligne géopolitique juste pour faire plaisir à Bruxelles. Que les Européens se préparent donc, prévient le Corriere della Sera. Mais bon, on pourra tout de même se consoler avec le retour de Washington dans l'accord de Paris.
Merci Benjamin Morand, Courrier International, Hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors on a compris, les sujets de discorde ne manquent pas, ne vont pas manquer, voire de contentieux en matière de sécurité, de diplomatie et bien évidemment de désaccords commerciaux. Un mot peut-être pour commencer sur les relations commerciales entre les deux rives de l'Atlantique. Elles se sont considérablement dégradées pendant la présidence Trump. Les taxes et les droits de douane se sont multipliés. Alors, par exemple, sur les vins français, mais aussi sur les vins allemands. Voilà, c'est vraiment pour prendre un exemple. Conséquence, entre autres, d'une guerre entre Boeing et Airbus, mais pas seulement. Avec Biden, on va passer de America Great Again, Jarma, à America First. Est-ce que finalement, ça ne change pas grand-chose en ce qui concerne les relations commerciales? Il semblerait que non, hein.
Alors, les relations commerciales, elles vont être liées évidemment à la situation politique intérieure que Joe Biden retrouve. Et il a très clairement dit qu'il aurait des volontés d'apaisement de la situation actuelle. C'était d'ailleurs un peu la teneur de son discours d'inauguration hier. Et cet apaisement, il va aller de pair avec les craintes économiques que ressentent un certain nombre d'Américains. Et donc, il a déjà dit qu'il favoriserait le « Make in America ». Donc, c'est pas « Make America Great Again », mais il va favoriser, évidemment, les entreprises américaines, le fait d'investir sur le territoire américain. Et ça ira peut-être à contre-courant des intérêts européens, évidemment, et du reste des intérêts. Mais il a très clairement exprimé le fait qu'il donnerait la primeur aux entreprises américaines et à l'industrie américaine.
Oui, il faut vraiment que les Européens comprennent qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis pour un président qui vient d'être élu aux États-Unis avec tout ce qui se passe. Et ce qui s'est passé le 6 janvier, l'attaque du Capitole, en est une illustration, comme les Gilets jaunes en étaient une en France l'année dernière. Benjamin Haddad, dans ses relations commerciales, il y a un chapitre un peu spécial et particulier sur les GAFA. Alors on les connaît, Google, Amazon, Facebook, Apple et encore quelques autres. La France est en pointe en taxe sont les GAFA à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires, mais l'Europe est assez attentive à la réaction des États-Unis. C'est évidemment un gros sujet de discorde, les GAFA et l'Europe.
Oui, c'est un très gros sujet de discorde et vos autres invités ont raison de le souligner. C'est vrai qu'on va avoir un ton plus constructif, positif dans les relations transatlantiques, mais les grands sujets différents, notamment d'ordre commerciaux, vont perdurer. Hein. Là-dessus, il y avait un assez large accord bipartisan. Alors,
Sur les GAFA, effectivement, hein, on voit l'Union européenne et notamment la France hein, qui essaie de pousser un modèle plus régulateur. La taxation en France, l'annonce du Digital Service Act par Margrethe Vestager en décembre qui vise à mieux contrôler le contenu, la haine en ligne, mais aussi la question des données privées. Donc tous ces sujets vont rester des irritants dans la relation transatlantique. Deux différences tout de même, à mon avis, avec les années Trump là-dessus. La première, c'est qu'on voit maintenant émerger, notamment dans l'aile progressiste du Parti démocrate, hein, incarné par des personnalités comme Elizabeth Warren, aussi un discours sur la régulation des GAFA, sur la question des monopoles, des concentrations, et encore renforcé hein, par ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les sites de réseaux sociaux qui ont fermé les comptes de Donald Trump. Ça a lancé quand même tout de même un débat aussi hein, sur les contenus et la haine en ligne et la responsabilité des plateformes ici aux États-Unis. Donc il y a une opportunité peut-être pour avoir un dialogue transatlantique. Un deuxième sujet, c'est qu'à mon avis, en tout cas au début, l'administration Biden voudra faire baisser la température et essaiera de promouvoir les cadres multilatéraux de dialogue. Sur la taxation, vous le savez, il y a en ce moment un dialogue en cours à l'OCDE hein, sur les normes. Et donc les États-Unis, qui avaient complètement absenté ce format pendant les années Trump, vont probablement essayer de le réinvestir. Donc au début, il y aura peut-être une opportunité de dialogue, mais là aussi, clairement, les différents perduront.
Cléo Damayor, ce qui se passe en Allemagne, c'est évidemment toujours très important pour l'Europe, et particulièrement en matière de taxation des GAFA, car si l'Union européenne a des rapports commerciaux avec les États-Unis qui sont très bénéficiaires, hein, la balance est très favorable aux Européens, c'est notamment grâce ou à cause des Allemands. Donc les Allemands sont peut-être, c'est peut-être dans la future relation entre l'Union européenne et les États-Unis, en tout cas en matière de commerce, le maillon faible, le maillon le plus fragile.
Oui, mais je crois que j'aimerais poser la question différemment et j'aimerais bien la tourner un peu plus d'une manière plus constructive. Je crois que Benjamin a très bien expliqué ce qui sont les défis, mais on pourrait poser la question différemment. On pourrait dire aussi que les États-Unis et l'Union européenne ensemble sont plus que 40% du PIB mondial. 40%, c'est énorme. Donc ça veut dire aussi, si les deux coopèrent, se mettent d'accord, ils ont une énorme puissance ou un potentiel énorme pour définir les règles dans plusieurs domaines, que ce soit économique, technologique, de régulation. Donc je crois le défi, en fait, ça sera plutôt de voir dans quelle mesure on peut se mettre d'accord, on peut coopérer pour essayer d'être le, on dit ça, le rule setter, donc c'est lui qui définit les règles dans un environnement global, international, qui est de plus en plus en défi pour les démocraties. Donc je crois, j'aimerais bien un peu de changer le narratif de cette question.
Mais sur la question que je vous posais, à savoir, est-ce que l'Allemagne va être le maillon faible, le plus fragile sur lequel les Américains vont pouvoir appuyer pour faire plier les Américains sur l'ensemble de leurs priorités, oui ou non ?
Je crois que c'est difficile à dire. Je crois que quand on prend une approche globale et on regarde qui va être le pays que les États-Unis approcheront le premier quand il s'agit de redéfinir les relations avec l'Europe, ou en anglais on dirait le go-to partner. Dans le passé, c'était très souvent les Britanniques, la Grande-Bretagne. Et je crois dans l'avenir, si les Américains cherchent un partenaire qui sait fédérer l'Europe, qui sait créer l'unanimité en Europe, et qui sait, qui peut parler un peu pour l'Europe, ça sera plus l'Allemagne que la France ou que d'autres pays. Donc je crois le rôle de modérateur ou de fédérateur, ça sera plutôt l'Allemagne, mais ça vient bien sûr avec des énormes expectations, des énormes attentes envers l'Allemagne. Et je ne suis pas sûre que l'Allemagne, surtout les premiers mois de 2021, en pleine campagne électorale, sera capable de répondre à ces attentes.
Et oui, ça voudrait dire que l'Allemagne serait un peu en première ligne sur des sujets qui n'ont pas été les siens jusqu'alors, c'est-à-dire la politique, la géopolitique, la diplomatie, et puis ce qu'on va aborder tôt ou tard, à savoir l'autonomie stratégique de l'Europe, et ce que les Français ont tendance à appeler l'Europe puissante.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, Joe Biden et l'Europe, nous sommes avec Tara Varma, directrice du bureau de Paris de l'ECFR, European Council on Foreign Relations, avec Claudia Mayer, directrice de recherche au SWP en ligne de Berlin, avec Nicole Niesoto, professeur au CNAM, le conservateur national des arts et métiers, avec Benjamin Haddad, directeur Europe de l'Atlantic Council, il est en ligne de Washington. Nicole Niesoto, autre grand point de divergence entre l'Europe et les États-Unis, c'est évidemment l'Alliance Atlantique. Donald Trump s'en était totalement désintéressé au point que Emmanuel Macron avait décrété l'OTAN en état de mort cérébrale quand Angela Merkel, la chancelière allemande, voudrait, elle, revenir à la situation antérieure et plaide pour une stabilité retrouvée au sein de l'Alliance. Ça fait une grande divergence entre l'Europe et les États-Unis et puis aussi entre les Européens.
Je ne crois pas que la divergence, elle soit sur l'Alliance. Je suis même sûre que c'est pas le cas. Tous les Européens, France comprise, considèrent que l'Alliance Atlantique, c'est une structure de la relation avec les États-Unis qui est à la fois cruciale pour la sécurité et indispensable sur le plan politique. Donc la question, c'est pas celle de l'Alliance. La question, c'est celle de la façon dont les Européens, collectivement, ensemble, et non pas en concurrence avec les pays comme vous en avez évoqué tout à l'heure, comment les Européens ensemble définissent leur rapport à l'Alliance, définissent leur identité dans l'Alliance et leur identité dans le monde. Et si je puis revenir un peu en arrière, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Claudia Mayer sur le fait qu'il faut que les Européens attendent et de ce que va demander l'Amérique sur la Chine et essayent de répondre de façon favorable aux Américains. Non, ce que j'appelle, c'est pas ça du tout. D'abord, il faut pas attendre que l'Amérique se décide. Il faudrait dire aux Américains, voilà ce qu'on veut faire avec vous, voilà sur les points sur lesquels on ne sera pas d'accord. Et en particulier,
c'est un peu ce que les Européens ont fait, puisqu'ils ont, ils travaillent, c'est pas totalement abouti, mais ils travaillent sur un nouveau partenariat autour de 5 thèmes, je vais les citer, hein. La lutte contre la pandémie du Covid, bien sûr, le multilatéralisme, le changement climatique, la sécurité et la paix, évidemment, ça englobe l'Alliance Atlantique, et puis les valeurs communes que l'on partage de chaque côté de l'Atlantique.
Oui, non, tout à fait, c'est ce que disent les Européens, mais c'est difficile pour les Européens d'affirmer un point de vue qui, à 10%, peut être différent de celui des Américains et à 90% sera le même. C'est difficile pour les Européens quand Joe Biden commence son mandat en disant « je veux rétablir le leadership ». Et moi, je pense qu'il y a contradiction entre le leadership américain et un vrai partenariat entre les Américains et l'Europe. Donc, je pense que les Européens ne doivent pas attendre, ils doivent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, et en particulier pour l'Alliance Atlantique, il n'y a aucun problème à revivifier l'Alliance Atlantique parce qu'elle va très mal, notamment à cause des Turcs et des Polonais. Moi, je ne pense pas qu'il faut faire une alliance avec un pays qui ne respecte pas la démocratie. Donc, moi, je serais sur la suspension, une espèce d'article 7 de l'Alliance Atlantique. Donc c'est aux Européens de dire ça, et deuxièmement de dire que il y a des sujets de sécurité que l'Amérique ne voudra pas traiter, que ça ne l'intéresse pas, ce qui est normal d'ailleurs, parce que l'Amérique s'est fait pour faire autre chose que, par exemple, du Caucase ou du Haut-Karabakh. Et bien, dans ces conditions-là, les Européens veulent le faire seuls, décider seuls, et c'est surtout le mode de décision qui est important. La souveraineté européenne, ça ne veut pas dire qu'on sera contre l'Amérique, ça veut dire qu'on décide entre nous, sans les Américains. Et puis, une fois qu'on est décidé entre nous, on regarde ce qu'on peut faire avec les Américains ou pas. Et je répète, dans 90% des cas, on sera d'accord avec eux. Donc, les points difficiles seront la Chine. Je pense que les Européens ne veulent pas rentrer dans un système, une nouvelle bipolarité confrontationnelle entre l'Occident et la Chine. Ça, c'est pas du tout l'intérêt des Européens. Et deuxièmement, ça ne veut strictement rien dire, puisque la Chine est la première puissance commerciale mondiale, donc une guerre froide avec la première puissance commerciale mondiale, ça n'a pas de sens. Donc là, il y aura la Chine, il y aura sans doute le Moyen-Orient autour d'Israël, il faudra voir comment on participe ou pas à la reconstruction de cette zone que les Américains ont détruit eux-mêmes en 2003 quand ils ont attaqué l'Irak. Et puis il y aura un point qui n'est pas forcément un point de contentieux, mais je termine là-dessus, mais qui est un point, à mon avis, fondamental. Comment on s'entend entre nous, Américains et Européens, sur les sujets de demain ? Non pas les sujets d'hier, mais les sujets de demain. Et par exemple, l'intelligence artificielle, comment on fixe les normes, comment on fixe des limites éthiques à l'intelligence artificielle. C'est à nous de proposer quelque chose aux Américains plutôt d'attendre, qu'est-ce qu'ils vont dire, alors est-ce qu'on sera d'accord ou pas. Voilà ce que je pense. Et donc, l'Alliance Atlantique, à mon avis, ce ne sera pas le sujet. Tout le monde est d'accord pour la garder, pour la consolider, pour qu'elle soit une alliance de démocratie réelle et pas simplement rhétorique. Le vrai sujet, ce sera du côté européen, est-ce que les Européens sont sincères quand ils disent qu'ils veulent être souverains, c'est-à-dire décider par eux-mêmes et non pas obéir à ce que disent les États-Unis.
Benjamin Haddad, on a compris qu'en écoutant Nicole Nyusdo que les Américains étaient de retour, que Joe Biden était de retour, nous sommes de retour, il n'y a plus personne d'autre que nous pour diriger le monde et donc l'Europe. Qu'attendent les Américains des Européens? Un soutien indéfectible dans son affrontement avec la Chine?
Oui, je crois que c'est le cas. Je pense qu'effectivement, on a une équipe qui est bien intentionnée vis-à-vis de l'Europe, mais qui arrive avec une vision quand même assez conservatrice, assez vieille en fait, de l'Europe et de la relation transatlantique, on l'a dit, c'est-à-dire une attente de voir des Européens alignés, beaucoup de méfiance à Washington vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la souveraineté européenne ou l'autonomie stratégique. Et effectivement, je suis fondamentalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est aux Européens, à ce moment-là, de s'affirmer, d'être capables entre eux de définir leurs intérêts, de définir des modes d'action et de travailler de façon beaucoup plus équilibrée avec les Américains. Et je crois, au fond, que ce sera positif aussi pour la relation transatlantique. Parce que, certes, Biden dit « nous sommes de retour », il l'avait dit pendant la transition déjà, mais la vérité, c'est que Donald Trump n'était pas une aberration ou un accident de l'histoire. Il était un symptôme, il était un accélérateur de tendances qu'on avait déjà vues sous Barack Obama, c'est-à-dire une forme de rejet de l'exceptionnalisme américain, un retrait de théâtres qui ont un impact direct sur la sécurité des Européens, puisqu'on voit par exemple sur la Syrie que la politique d'Obama et de Trump était assez similaire, c'est-à-dire une politique de l'évitement, pas de volonté vraiment de s'investir dans ce conflit qui a eu des conséquences sécuritaires directes sur l'Europe, que ce soit par les attentats terroristes ou les vagues de réfugiés, mais aussi un retrait d'Europe en fait, ne serait-ce que quand on regarde par exemple le nombre de troupes américaines qui sont stationnées en Europe. Donc c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis, mais c'est à nous de l'affirmer et de le montrer, de voir une Europe responsable, forte, qui est capable de s'assumer. Et c'est pour ça que, pour compléter ce que vient de dire Nicole Nyusdo, non seulement effectivement il faut tracer nos lignes rouges, il faut dire quels sont nos intérêts et ce qu'on attend sur un certain nombre de grands sujets stratégiques, commerciaux ou technologiques, mais j'irai même plus loin, il faut déjà agir. C'est en agissant et en montrant la valeur ajoutée des Européens, déjà qu'on sera capable de défendre nos intérêts, mais aussi qu'on montrera à Washington l'apport d'Européens autonomes et unis dans l'Alliance. Sur un sujet comme les GAFA, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui les Européens sont considérés comme incontournables, puisque de fait ils ont agi, ils ont poussé leur modèle normatif et régulateur ces dernières années en étant unis. Aujourd'hui à Washington, on sait que sur les GAFA, il va falloir parler aux Européens. Sur les grands sujets commerciaux, pareil, l'Union Européenne est considérée comme un acteur de premier plan. C'est un peu moins le cas, c'est même beaucoup moins le cas sur les questions sécurité et défense. Or je pense que, par exemple, quand on regarde la Méditerranée orientale et la rivalité avec une Turquie qui devient de plus en plus agressive, c'est ici aux Européens qu'il faut s'affirmer et se mettre dans le jeu, parce que sinon effectivement les Américains avanceront sans eux.
Alors sur comment les Européens peuvent s'affirmer, il y a un mot magique, un concept qui s'appelle l'autonomie stratégique, Tara Varma. Alors d'abord, quand on parle d'autonomie stratégique, on parle de quoi? Et l'autonomie stratégique, c'est plutôt un terme qu'on utilise à Bruxelles ou à Berlin. Je prendrai la même question à Claude Desmalleur dans un instant. En France, Emmanuel Macron serait plutôt tenté de parler d'Europe puissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une autonomie stratégique? Et est-ce que les Européens se contentent d'en parler, ou est-ce qu'ils mettent en œuvre cette fameuse autonomie stratégique? Alors, quand on parle d'autonomie stratégique, on parle de quoi?
Alors, l'autonomie stratégique, elle se définit de la manière suivante. Dans la stratégie globale qui avait été commandée par l'ancienne haute représentante européenne pour la diplomatie, Federica Mogherini, la capacité d'agir indépendamment dans un monde interdépendant. Donc, voilà, ça reconnaît...
Ça reste assez vague.
Ça reste assez vague, et en même temps, ça reconnaît la place de l'Europe en tant qu'acteur géopolitique, ce qui était quand même pas évident au départ. Et elle se décline en fait de trois manières, l'autonomie stratégique. Premièrement, l'autonomie d'information. Deuxièmement, autonomie de décision. Troisièmement, autonomie d'action. Autonomie d'information, on n'y est pas encore tout à fait. L'Union européenne, quand même, pour la grande majorité des sujets, dépend de la volonté des États membres, dans leur volonté à eux de transmettre les informations nécessaires. On l'a vu au départ dans le déclenchement de la crise du Covid, en fait. Les États membres ont mis du temps à faire remonter à l'UE le nombre de malades qu'il y avait, la manière dont les contaminations se passaient. Autonomie de décision, je dirais que sur ces sujets de compétences, en fait, elle est assez bonne. Sur les questions commerciales, on le voit. Sur les questions géopolitiques, on avance. La profession de foi de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, c'était de faire de cette commission une commission géopolitique. 3 mois après son arrivée, elle se retrouve...
Ce qui est un progrès par rapport à la précédente commission qui voulait simplement faire une commission politique.
Tout à fait. Et c'est un sacré changement de paradigme, un changement de logiciel pour l'UE. Et en fait, on l'a bien vu, encore une fois, dans la gestion de la crise du Covid. Il y a eu quelques semaines au départ un peu chaotiques, mais finalement, à partir du moment où il a été décidé que c'était Ursula von der Leyen et Charles Michel, le président du Conseil, qui étaient en charge de cette espèce de task force de la gestion de la crise, ça s'est assez bien passé. Ils ont pris des décisions clés, notamment la négociation des vaccins. Donc sur l'autonomie de décision, sur un certain nombre de sujets, on avance. Autonomie d'action, notamment sur les questions géopolitiques, on n'y est pas tout à fait. Et en fait, on voit quand même une volonté des Européens d'attribuer plus de moyens à l'Union européenne pour qu'elle soit capable d'assurer sa sécurité, notamment dans son voisinage immédiat, la rive sud de la Méditerranée, et puis l'Est aussi, évidemment, en plus de potentiellement pouvoir agir dans des contrées un peu plus lointaines, dans l'Indo-Pacifique et dans d'autres régions.
Claudia Mayer, lorsqu'on emploie le terme autonomie stratégique, lorsqu'on l'emploie à Berlin, à Paris, et puis entre les deux, il y a Bruxelles, est-ce qu'on comprend la même chose ou pas vraiment ?
Bah, je pense qu'on ne comprend pas la même chose. Et j'aimerais bien aussi adresser un malentendu que Nicole Mezzotto avait soulevé. Je suis tout à fait d'accord que les Européens doivent se mettre d'accord d'abord sur ce qu'ils veulent et après en discuter avec les Américains. Le point que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas de réaction européenne ni à Trump ni à Biden. Il y a autant de réactions européennes qu'il y a pire en Europe. Et je crois que c'est particulièrement important de le dire en France, dans un débat français, que très très peu de pays en Europe soient d'accord sur le concept de souveraineté européenne ou de l'autonomie stratégique. C'est un concept qui est très reconnu en France, qui est défendu en France, peut-être en partie encore à Bruxelles. Mais si vous allez dans les pays de l'Europe de l'Est ou les pays baltes, la Pologne ou d'autres pays, il y a très peu de pays qui soutiennent ce concept parce qu'ils le considèrent quasiment comme irresponsable, parce qu'ils considèrent que la défense de l'Europe, surtout dans le domaine de la défense, ne peut être assurée qu'avec les États-Unis. Donc je crois qu'il faut être très conscient du fait qu'il n'y a pas de réponse européenne et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques envers un concept qui théoriquement, intellectuellement, est très séduisant, mais où les Européens ont vraiment du mal à le mettre en pratique. Ce que je veux dire, ou ce que je comprends moi, par souveraineté européenne ou autonomie stratégique, c'est surtout la capacité de l'Europe de définir ses priorités, avoir les capacités de les mettre en œuvre. Et là, je crois que je proposerai une autre définition que Tara. Ça veut dire qu'il faut une autonomie politique, savoir ce qu'on veut. Il faut une autonomie institutionnelle, pour les mettre en œuvre. Il faut surtout dans le domaine de la défense des capacités, et c'est ça où il y a des énormes problèmes en Europe. Il faut aussi un volet industriel. Donc si on a les 4 critères politiques, institutionnels, capacitaires et industriels, l'Europe est beaucoup plus capable de défendre ses propres intérêts. On pourrait le mettre dans une phrase, il ne s'agit pas d'avoir la liberté de quelqu'un, les États-Unis. Je crois que l'Europe est toujours mieux placée avec des partenaires. Mais il s'agit d'acquérir la liberté de faire quelque chose. Donc, ça veut dire de poursuivre ses propres objectifs. Et si on le met dans le contexte international, la question pour l'Europe est assez simple. Est-ce qu'on veut être un objet dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis? Ou est-ce qu'on veut jouer un rôle qui est propre à nous, définir notre propre rôle? Est-ce qu'on veut subir les règles des autres? Ou est-ce qu'on a quand même l'ambition de définir nous-mêmes les règles du jeu? Et je crois que c'est ça la grande ambition derrière la souveraineté européenne ou l'autonomie stratégique. Mais en même temps, encore une fois, je souligne, et surtout dans le domaine de la défense, en Europe, on est très loin de ça. D'abord, il n'y a pas d'unité parmi les pays européens, que ça soit un concept positif. Et dans le domaine de la défense, niveau capacitaire et industriel, on est très, très, très loin d'être autonome.
Alors, ce que vous dire, est-ce que l'Europe a une ambition et les moyens de son ambition? À vous écouter, il semblerait que non. Cette notion d'autonomie stratégique, on a bien compris qu'elle n'était pas, ne s'exerçait pas uniquement dans le domaine de la sécurité et de la défense, mais aussi dans le domaine de la santé. Par exemple, avec la crise du Covid, beaucoup d'Européens ont été surpris de découvrir qu'ils dépendaient de la Chine, de l'Inde pour des médicaments, en tout cas les principes actifs des médicaments. On s'est rendu compte que les Européens dépendaient beaucoup des chaînes d'approvisionnement énergétique. Il y a une prise de conscience tout de même avec cette crise, cette pandémie du Covid, Tara Varma.
Oui, absolument. Et je trouve que la prise de conscience a été d'autant plus forte que la capacité de réaction de l'Union européenne a été remarquable, à mon avis. Après quelques semaines un peu chaotiques, alors encore une fois, c'est important de rappeler que la santé ne fait pas partie des compétences de l'UE. Donc je trouve ça d'autant plus remarquable que la Commission et les institutions ont réussi à s'emparer de ce sujet et d'en prendre le leadership politique. Il était évident, de toute façon, c'était les attentes des gouvernements des différents États membres et des citoyens que ce soit géré à un niveau supranational. Il était très clair avec cette pandémie, de toute façon, que le virus circulait partout, que le niveau national n'était pas le niveau adéquat pour gérer cette crise et qu'il fallait au moins que ce soit géré au niveau européen. Idéalement, ça aurait été géré au niveau multilatéral, mais on a vu qu'il y avait eu un certain nombre de défaillances de l'Organisation mondiale de la santé dans le fait de sonner le signal d'alarme qui était lié, encore une fois, on en revient à cette histoire de relations transatlantiques, au désengagement américain des 4 dernières années dans la grande majorité des instances multilatérales. D'ailleurs, Donald Trump s'était formellement retiré de l'OMS. Et en fait, les Européens ont endossé un rôle où on ne les attendait pas. Et je trouve que c'est assez remarquable qu'on ait réussi à se dire que la santé, qui ne fait pas partie des compétences de l'UE, en fait, relevait de son autonomie stratégique. Effectivement, il y avait le défi industriel dont Claudia parlait. Je pense qu'elle en parlait plutôt sur les questions de défense. Mais il y a un défi industriel sur les questions de santé. Est-ce qu'on relocalise? Est-ce qu'on ne relocalise pas? Qu'est-ce qu'on peut relocaliser en Europe pour être moins dépendant? Comment est-ce qu'on peut travailler avec des partenaires privilégiés? Parce que les industriels de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui ne voudront pas tout relocaliser en Europe. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on relocalise un certain nombre d'industries pour préserver notre autonomie stratégique? Est-ce qu'une solution ne consiste pas aussi à relocaliser, encore une fois, dans le voisinage européen, dans les Balkans, au Maghreb, travailler avec des partenaires clés que les Européens identifient? Et je crois que ce que disent tous les intervenants depuis le début de l'émission, c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Union européenne choisisse ses partenaires. Et l'autonomie stratégique, c'est aussi cela. Décider politiquement d'avec qui on veut travailler en priorité. Pas exclure les gens, parce que faire partie du système international, c'est travailler avec tout le monde. Mais par contre, avoir des relations privilégiées, faire partie d'alliances, et en décider vraiment consciemment, ça fait partie de ce changement logiciel qui est attendu de l'UE, ça fait partie de ce fonctionnement qui est attendu de cette commission géopolitique. Et je pense qu'on avance plutôt bien dans ce sens-là. La proposition qui a été formulée par la présidente de la Commission européenne en décembre sur un nouveau partenariat transatlantique, honnêtement, ça relève d'un changement de logiciel. On nous a beaucoup dit à l'été 2020, les Européens sont en attente de ce qui va se passer, ils vont être passifs de nouveau, juste espérer que les États-Unis les récupèrent dans leur giron. Je trouve pas que ce soit ce qui se soit passé. Les chercheurs, vraiment, pour le coup, des deux rives de l'Atlantique, ont produit un certain nombre de propositions qui étaient des propositions de relance de la relation et qui étaient des propositions proactives où les Européens disaient aux Américains, en fait, nous identifions toute cette variété de sujets sur lesquels on a envie de travailler avec vous, mais on a nos idées déjà et nos priorités sur ces sujets. On espère que vous allez nous rejoindre. Et moi, je trouve que ça, c'est un vrai changement.
Claude Amayer, vraiment d'un mot. Vous avez écrit un long papier sur la notion d'autonomie stratégique dans les cahiers de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous avez une phrase de conclusion qui résume bien, en tout cas, j'ai été séduit par cette phrase, sur l'autonomie stratégique. L'Europe doit faire plus dans tous les domaines. C'est un peu ça, l'autonomie stratégique. D'une phrase.
Oui. Je crois que l'autonomie stratégique, enfin, Tara l'a très bien expliqué, c'est de savoir ce qu'on veut et avoir les moyens de les mettre en œuvre. Si l'Europe veut défendre sa façon de vivre, tout ce que nous avons construit en Europe, il faut savoir quelles sont nos priorités et il faut savoir les défendre. Ça s'applique aussi bien dans le domaine de la santé que le règlement des nouvelles technologies et aussi la défense. Et le problème, c'est que les dernières semaines, ou mois ou années, on a passé beaucoup de temps sur les débats. Quelle est la définition de l'autonomie stratégique? C'est quoi la différence avec la souveraineté européenne? on aurait dû mettre toute cette énergie dans la mise en œuvre, que ça soit dans le domaine de la défense ou bien dans les règles et les réglementations dans le domaine technologique ou bien dans la santé. Donc je crois le grand défi maintenant, c'est de dire bon, on est d'accord sur une définition de base, l'Europe veut être capable de définir ses priorités et les mettre en œuvre et de définir les règles. Elle ne veut pas être un objet, mais vraiment un acteur. Et pour ça, maintenant, il faut en fait arrêter de discuter et
parler, parler moins, agir plus. Hein, je résume. Tara Barma, ouais, encore un mot. Qu'attendent les Européens des Américains? Alors pour certains, c'est le retour du bon vieux temps, mais on a bien vu que ça allait être difficile. Et pour les autres, finalement, on s'en rend compte qu'ils n'en attendent pas grand-chose. Hein. C'est un peu le résultat d'une enquête que vous avez réalisée, le CFR, European Council on Foreign Relations. 15 000 personnes, je crois, ont été interrogées dans une dizaine de pays européens, pas tous, dans 11 pays. Et alors, ce qui est le plus frappant, c'est que je retiens un chiffre, mais vous allez le développer. 67% des Européens estiment qu'ils ne peuvent compter, ils ne peuvent plus compter sur Washington en cas de crise majeure. Et ça, c'est quand même une nouveauté. Ça, c'est l'effet Trump vu par les Européens. Pas par les gouvernements américains, mais par les citoyens européens. Et c'est très révélateur quand même.
Absolument. Bah, je crois qu'on ne peut pas nier le traumatisme quand même qu'ont été ces quatre dernières années pour les Européens. Il y a eu la rhétorique du président Trump. Moi, je suis assez convaincue que dans la plupart des cas, la méthode est consubstantielle du fond. On a du mal à voir comment on peut dissocier la manière de traiter les gens de la manière dont on perçoit sa propre politique. Et effectivement, ces quatre années, elles ont été très dures pour la relation transatlantique, mais elles ont été aussi très dures pour le rôle qu'occupent les États-Unis. On parlait quand même du gendarme du monde jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Donc ça, on voit que cette image-là, elle est très sérieusement ébranlée. Qu'elle ait été ébranlée, c'est une chose, mais en fait, ce que l'étude qu'on a publiée cette semaine montre, c'est qu'en fait, les Européens ne croient pas à la capacité de résurgence des États-Unis. Et en fait, vous l'avez cité, le chiffre de 67% des Européens qui pensent qu'ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis, mais il y a aussi seulement 10% des Européens interrogés qui pensent que les États-Unis protégeront toujours l'Europe. Ça, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, c'est assez inquiétant. On voit
Ce qui est intéressant, c'est même que dans les pays comme la Pologne, enfin dans les pays d'Europe centrale et orientale, eh bien la confiance dans les États-Unis a énormément baissé.
Absolument. La confiance a baissé un peu partout. Alors en Pologne et en Hongrie, elle a baissé de manière moindre que dans d'autres États européens. Mais même, on voit par exemple le Royaume-Uni, alors qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais qui fait partie de l'Europe. Au Royaume-Uni, qui est quand même le deuxième partenaire de cette relation spéciale, 81% des personnes interrogées pensent que le système américain est complètement ou partiellement cassé et qu'on n'arrivera pas à le reconstruire. C'est vraiment très frappant. D'un certain nombre de ces analyses ressort notamment une conclusion qui est que les Européens attendent davantage d'investissements dans le domaine de la défense, et ça rejoint une partie des conversations qu'on avait. Et surtout, la question, il y a beaucoup de points et j'encourage nos auditeurs à aller lire l'étude parce qu'il y a beaucoup de graphiques et beaucoup de chiffres. Le plus frappant, je dois dire, pour moi, c'est que c'est l'Allemagne qui est considérée comme le pays le plus susceptible pour les Européens d'être celui avec lequel il faut avoir des bonnes relations. C'est pas si surprenant que ça, mais par rapport à ce que disait Claudia Mayer un peu plus tôt dans l'émission, je crois pas que l'Allemagne elle-même se perçoive comme le pays avec le... Enfin, c'est-à-dire cette espèce de noyau autour duquel il faudrait se fédérer. Le noyau politique, il existe aujourd'hui. On sait que l'Allemagne joue un rôle vraiment central dans l'équilibre politique des puissances entre la France, les pays d'Europe centrale, et c'est très important. Mais en fait, c'est pas seulement ça que, vraisemblablement, les Européens attendent de l'Allemagne. Ils attendent de l'Allemagne qu'elle soit capable de protéger l'Europe, et je pense que ça, c'est...
C'est une grande surprise pour les Allemands, hein, pour commencer. Benjamin Haddad, alors on a vu que les Américains, et vous nous l'avez expliqué, attendent beaucoup de choses des Européens, mais on a aussi l'impression que Joe Biden va devoir, si vous me permettez l'expression, ramer quelque peu pour séduire les Européens. Il en est conscient ou pas, selon vous ?
Je ne sais pas s'il en est conscient, parce que je crois qu'il voit les attentes du reste du monde, des Européens, et pense pouvoir solder vraiment les années de Trump assez rapidement, même si on a vu des tonalités différentes, puisqu'on a entendu l'audition de Tony Blinken, hein, qui sera son secrétaire d'État il y a deux jours au Sénat, et qui a mis vraiment le terme d'humilité au centre de son discours. Mais je voudrais réagir un peu aux chiffres dont on vient de parler, au sondage des Européens, parce que c'est quand même vraiment très intéressant de voir que, une fois de plus, les opinions publiques européennes sont un peu plus lucides sur les enjeux que beaucoup de leurs élites politiques et stratégiques. Parce qu'effectivement, là, on parle de la relation transatlantique et de la politique étrangère. Mais quand on écoute le discours d'investiture de Biden hier, et quand on écoute même les priorités qu'il a avancées dans ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est avant tout des discours de politique intérieure. La priorité de Biden, c'est de lutter contre la pandémie, le coronavirus, et d'essayer de le contrôler et de multiplier les vaccinations dans la population. Il est élu aussi au milieu d'une crise économique et identitaire sans précédent, avec des divisions profondes dans l'Amérique, à la fois raciales, mais aussi évidemment politiques. On l'a vu dans l'assaut du 6 janvier qui a traumatisé beaucoup d'Américains. Il y a toujours une majorité de républicains, d'ailleurs, qui refusent de reconnaître la validité de l'élection de Joe Biden. Tout ça, évidemment, ça va être une distraction immense pour cette administration qui a certes des priorités de politique étrangère, mais qui va pas non plus avoir énormément de patience et de temps, notamment vis-à-vis des autres Européens. Donc quand on voit effectivement qu'une majorité d'Européens aujourd'hui commence à douter de la crédibilité des États-Unis lors d'une grande crise, je pense que là, il y a effectivement une certaine lucidité. Et c'est pour ça, Claude Mayer parlait tout à l'heure de l'incompréhension, voire de l'hostilité de certains Européens, et notamment de certaines élites politiques européennes en Europe centrale, mais aussi en Allemagne, vis-à-vis du concept d'autonomie stratégique ou de souveraineté européenne. Et là, je crois qu'il y a, un vrai risque pour les Européens. Il y a un danger de se rendre en fait inexistant sur la scène internationale s'ils sont constamment dans l'attente de l'administration Biden, et des risques de malentendus. Si demain, vous avez une crise majeure dans le voisinage européen, par exemple une crise en Libye, éventuellement peut-être une crise dans les Balkans, ou encore des tensions avec la Turquie, est-ce qu'il y aura aujourd'hui l'appétit politique, est-ce qu'il y aura la bande passante aux États-Unis pour aller s'investir dans un conflit qui touchera essentiellement la sécurité des Européens plutôt que celle des Américains? C'est pas du tout sûr. Et donc c'est pour ça que l'autonomie stratégique, il s'agit pas de pousser les États-Unis à quitter le continent européen. C'est souvent la caricature qu'on entend en Pologne ou en Allemagne, y compris dans la bouche, par exemple, de la ministre de la Défense allemande, AKK. Il s'agit pas d'essayer de s'émanciper ou de sortir de l'OTAN, mais effectivement de se donner, si besoin, les capacités de penser et d'agir seul pour défendre nos intérêts.
Merci à tous les quatre. Je vais vous poser peut-être une dernière question. Allez, rapidement, à tous les quatre, un petit tour de table très très rapide. Quel sera le lieu de la première visite de Joe Biden en Europe, Tara Varma?
Paris, espère Paris, mais je crois que ce sera Bruxelles ou Berlin.
Benjamin Haddad, la première visite de Joe Biden, ce sera où?
À mon avis, symboliquement, il voudra en Allemagne pour tourner la page des années Trump.
Nicole Niesoto, ce sera où cette première visite?
Je pense Bruxelles, et j'espère qu'avant, il n'y aura pas une course entre les États européens pour savoir qui sera le premier à Washington.
Et Claudia Mayer, cette première visite,
Je pense Bruxelles, et je déconseille vivement aux Européens de commencer un contest de beauté pour attirer Biden chez eux. Donc laissons-le partir à Bruxelles, ça sera mieux pour tout le monde.
Et finalement, Bruxelles, c'est quand même la première capitale de l'Europe. Il y a l'OTAN à Bruxelles, et puis il y a aussi les institutions européennes, notamment le Conseil européen. Et puis c'est pas très loin, les 27 chefs d'État et de gouvernement peuvent faire le voyage de Bruxelles pour rencontrer Joe Biden tous ensemble, ce qui serait évidemment un signe d'unité. Claudia Mayer, Tara Varma, Nicole Niesoto, Benjamin Haddad, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier, avec Beniamino Morant de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast. Et vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via notamment votre plateforme préférée, qui pourrait être Google, Apple ou Deezer. Là encore, beaucoup d'Américains. Pour l'autonomie stratégique de Carrefour de l'Europe. On reste en contact via Facebook et Twitter. Encore des Américains. Daniel Escalde, que vous soyez à Paris, Berlin, Washington, ailleurs dans le monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.